Bonjour à toutes et à tous. Je veux vous entretenir aujourd'hui de la grâce de Dieu et prendre pour base ce verset, Hébreux 12, verset 15, qui nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». C'est donc dire qu'on peut se priver de la grâce de Dieu, ne pas utiliser en quelque sorte la grâce de Dieu en totalité ou en partie. Et j'ai voulu intituler ce message « Amazing Grace ». C'est un chant qui est à la mode aujourd'hui. Et comment se fait-il qu'on ne traduise pas « Amazing Grace » et qu'on laisse ce titre un peu exotique? Vous le connaissez, ce chant? Il est... Le titre n'est donc pas traduit et chacun peut le traduire à sa façon, selon son vécu, ses possibilités, soit la plus grande partie des fois, c'est donc traduit par grâce infinie. Mais on pourrait employer d'autres qualificatifs, grâce surprenante, déboussolante grâce, incommensurable grâce, etc., époustouflante grâce. Le biographe de Newton, l'auteur de ce chant, estime que ce chant est joué, écoutez bien, 10 millions de fois dans l'année. 10 millions de fois dans l'année, c'est-à-dire environ 27 400 par jour. Il y a 27 400 personnes par jour qui entendent parler de la grâce de Dieu. Alors ce cantique, ce chant, effectivement mentionne la grâce de Dieu de façon surprenante à plusieurs reprises dans peu de lignes. Je vous lis quelques lignes. Grâce étonnante au son si doux qui sauve le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue. À l'heure où, pour la première fois, j'ai cru de nombreux dangers, filets, pièges, j'ai déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'à maintenant. Et la grâce me mènera à bon port. Alors, qui était l'auteur de ce cantique, vieux de plus de 250 ans, j'ai bien dit 250 ans, 1760, John Newton était un capitaine de triste réputation d'un navire transportant des esclaves. Et en 1748, une tempête épouvantable menace de couler le navire, le bateau, et ils se retrouvent tous à genoux, esclaves et capitaines, sur le pont. Newton donne sa vie à Jésus et devient pasteur anglican par la suite et partisan, ironie du sort, de l'abolition de l'esclavage, lui qui avait fait le trafic d'esclaves. Alors, ce chant est banal aujourd'hui, il est interprété par divers artistes, pour ne citer qu'elle, Nana Mouskouri, ou encore cette année même, en 2022, au concert du 14 juillet 2022, par Gauthier Capuçon, au violoncelle. Pensent-ils tous ces artistes aux paroles? Ont-elles encore un sens ou même de l'importance? Alors, quel est le sens du mot « grâce » Je propose seulement rapidement une manifestation ou l'expression de l'amour inconditionnel, incommensurable de Dieu. Cette grâce de Dieu, elle est vieille comme le monde, comme l'humanité. Au jardin d'Éden, déjà, c'est là qu'elle a commencé à se manifester, dans ce jardin, Adam et Ève marchaient, selon l'expression biblique, avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Et puis, au cours d'une de ces promenades dans le jardin, Dieu dit, Genèse 2, verset 21, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce jour arriva et tout fut bouleversé. Genèse chapitre 3 raconte tout ce chambardement qui a eu lieu, ce jour mémorable. Et la question se pose pour Adam et Ève, après avoir mangé de ce fruit, ce n'était pas une pomme comme le dit la coutume populaire, c'était un fruit. Alors comment renouer avec Dieu, comment marcher à nouveau avec Dieu? Alors, Adam et Ève se sentent, nous dit le passage, nus et ont peur et se cachent. Alors Dieu les cherche, les appelle, et pour Adam et Ève, quand il faut y aller, on y va. Alors ils se fabriquent avec des moyens du bord, une ceinture de feuillage et se présente la peur au ventre. Qu'allait-il donc se passer? Était-ce la fin de l'expérience? Dieu allait-il leur signifier que c'était fini entre eux? Non, il va faire grâce. Il leur fabrique, lui, pour remplacer la ceinture de fortune, un vêtement complet. C'est Genèse 3, verset 21, qui précise « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtut. » Alors, plusieurs leçons sont déjà à souligner de ce moment. Premièrement, ce que peut faire l'homme est ridicule par rapport à ce que fait Dieu. Dieu fait des habits complets contre une simple ceinture de feuilles. Et ceci n'est pas recevable. Dieu donc sauve la situation. Le salut ne peut venir que de Dieu. C'est déjà le rejet des œuvres humaines pour plaire à Dieu, des mérites en tout genre. Ensuite, le rôle de la peur qui apparaît. Elle est les fonctions de la place laissée à la confiance, à la foi en Dieu. La peur est en quelque sorte un baromètre. Elle apparaît dès que Dieu est écarté. En perspective de tout cela, bien sûr, il y a le sacrifice de l'agneau et la vie chrétienne qui consiste à revêtir Christ. Un deuxième épisode au début de notre humanité va confirmer tout cela, c'est Caïn et Abel. Abel va trouver grâce et pas Caïn. Pourquoi ? Genèse verset 4, chapitre 4, verset 3. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porte pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Abel trouva grâce aux yeux de l'Éternel et pas Caïn, qui offre à Dieu ses propres œuvres, fruits de son travail. Abel avait compris que la relation avec Dieu ne peut s'établir que selon les règles établies par Dieu lui-même. La grâce ne peut s'acquérir, elle est donnée. Et on trouve dans l'Ancien Testament de nombreux exemples très parlants. Par exemple, Abraham avait la grâce de Dieu. Oui, avait la grâce de Dieu. Et il était devenu l'ami de Dieu. Il était un intercesseur très puissant. Il trouve grâce auprès de Dieu. Et dans sa prière concernant les habitants de Sodome, avant sa destruction, et nous pouvons peut-être lire ce passage que nous connaissons dans Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha et dit... Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Et ainsi de suite, Abraham va descendre presque le marchandage jusqu'à 10 et au verset 32. Au verset 31, Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. » Et Abraham dit encore, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. » Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes ? Et l'Éternel dit, je ne détruirai pas s'il se trouve 10 justes. Et bien sûr que nous savons que Sodome a été détruite. Un autre exemple de assez particulier, c'est celui de Jacob. Jacob... Dans Genèse 31, Jacob avait dû fuir son frère Ésaü et se réfugier chez Laban. Et puis, au bout de plusieurs dizaines d'années, l'Éternel intervient. Et Jacob reçoit l'ordre de Dieu de retourner dans son lieu de naissance. Contrairement à Abraham, ami de Dieu, qui avait pleine confiance dans la grâce de Dieu, l'attitude de Jacob est beaucoup plus mitigée. Il va couper en quelque sorte la poire en deux. Il prie Dieu de lui faire grâce, que tout se passe bien, mais en même temps, il va prendre des précautions. Il va séparer sa troupe en deux et puis... Il va mettre ensuite les enfants et les femmes devant. Puis en fait, tout se passe mal à ce niveau-là et il se retrouve par grâce dans les bras de son frère. Un troisième exemple, celui-là, c'est celui de Saül, le premier roi d'Israël, qui dépassait par la taille toute l'armée. Il était l'élu de Dieu, le choisi par Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Il avait été oint en plus par Samuel, le prophète. Mais un jour, Saül va usurper l'office sacerdotal réservé au prophète Samuel. Et il a dépassé là les bornes. Et Saül va se trouver définitivement rejeté par Dieu. Et il y aurait d'autres exemples dans l'Ancien Testament, Noé, Moïse, Joseph, David. Nous étions là dans l'Ancien Testament où la notion de grâce reste diffuse, sous-jacente, contrairement au Nouveau Testament. L'Ancien Testament décrit ce qu'on appelle le règne de la loi, donné par Moïse. la loi, disons, précisons que c'est plus de 600 articles qui, en quelque sorte, précisent les différents aspects de la sainteté de Dieu, du Dieu trois fois saint. Alors, quelques caractéristiques de cette loi. La loi impose une discipline stricte en une vie morale et une conduite irréprochable. La loi met en évidence le péché et l'absolu besoin du pardon. La loi, et c'est dans le Nouveau Testament que l'on trouve ça, la loi est considérée comme un précepteur pour nous faire saisir l'impérieuse nécessité de la grâce. On peut lire Galates 3, verset 23. Avant que la loi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi, de la grâce à venir, si l'on peut dire. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Le règne de la loi se termine avec l'Ancien Testament, et il est remplacé par le règne de la grâce. Mais on peut faire cette remarque que c'est la grâce de Dieu qui a imposé la loi, la grâce de Dieu qui a donné la loi pour démontrer que seule la grâce pouvait rendre libre, que pour le salut, c'est la seule solution. Les œuvres, les mérites, les rites, les dogmes, les règlements de toutes sortes ne peuvent conduire au salut. Alors, quelques aspects de la grâce. On citait trois. Le premier, la grâce et le salut. Nous connaissons tous ce verset, Romains 16, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Ou encore, Éphésiens 8, verset 9, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, et tout cela, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a qu'une seule solution pour le salut, c'est avoir recours à la croix, accepter, croire que Jésus nous a réconciliés avec Dieu à la croix. Bien sûr que c'est là, pour moi, la décision, la seule décision unique de toute une vie. Est-ce que j'accepte la croix ? Est-ce que j'accepte la grâce que Dieu me fait à la croix ? Alors, bien sûr, accepter ou ne pas accepter, c'est notre choix, notre liberté. La grâce, deuxièmement, après la grâce, c'est le salut. La grâce, c'est la sanctification. Ou encore, la grâce est notre vie quotidienne de chrétien. Notre marche vers la maturité chrétienne, la transformation de notre vie intérieure, spirituelle, pour être à l'image de Christ. La grâce de Dieu pour le salut d'abord, mais ensuite aussi pour la vie nouvelle. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, 1 Corinthiens nous affirme que 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3-9, que Dieu s'est engagé à nous affermir jusqu'à la fin. Et puis, je voudrais m'arrêter sur un troisième point qui est la grâce et un aspect de notre vie quotidienne, c'est nos épreuves, nos différences, nos difficultés, nos souffrances, pardon. La vie est remplie d'épreuves et de souffrances, d'échecs, de maladies. Cela n'arrive pas qu'aux autres. C'est Pierre qui nous le précise. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. La vie est donc, c'est vrai, jonchée de difficultés, de souffrances. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, précise, 1 Corinthiens chapitre 10, qu'aucune tentation n'est au-delà de nos forces et que Dieu a déjà, quand la souffrance, l'épreuve est là, trouvé, mis en place le moyen d'en sortir. L'épreuve, c'est vrai, est déstabilisante, ô combien. Et l'ennemi le sait très bien. Alors, c'est vrai que dès que la souffrance est là, nous avons des réflexes d'autodéfense, mais ces fichus réflexes d'autodéfense vont plutôt nous mettre en difficulté et mettre en nous encore plus de difficultés, nous déstabiliser davantage. Alors, il nous faut, si possible, mettre en place d'autres réflexes qui sont des réflexes d'autodéfense basés sur la parole de Dieu, la grâce et le Saint-Esprit. Pierre, l'apôtre Pierre, dira dans sa lettre une chose merveilleuse. Pierre, chapitre 5, et au verset 10, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ces peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Deux ou trois petites remarques supplémentaires, que la grâce n'est pas là pour favoriser le péché. On pourrait dire effectivement, si Dieu fait grâce, pourquoi se limiter ? Les Corinthiens l'avaient cru et ils sont rappelés à l'ordre en quelque sorte. Ne favorise pas le péché, ne favorise pas la paresse. Pourquoi se casser la tête ? Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. et puis aussi la grâce ne favorise pas l'amertume. L'amertume, c'est toutes ces dispositions intérieures, disons plus ou moins négatives, qui nous tirent vers le bas. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie, espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Cette amertume, ces dispositions intérieures que nous pouvons laisser se développer sont là comme pour nous empêcher, faire obstacle à l'action de la grâce de Dieu. Alors, en conclusion, quelle amazing grace choisissons-nous ? Est-ce que nous sommes pour à la grâce de Dieu, rapide, occasionnelle, à la limite de la plaisanterie, ou pour une grâce stupéfiante, étonnante, surprenante ? Éphésiens 2, verset 4 dit : Mon Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà. Nous recueillir devant Dieu et puis de nous souvenir que Marc 16, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ou plus loin, dans Hébreux 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, m'appuyant sur ces passages, je voudrais prier notre Père qui est aux cieux d'envoyer sa stupéfiante grâce selon sa volonté, ici, maintenant, ou dans le temps qu'il voudra, afin d'en restaurer plusieurs dans l'Assemblée et dans les familles représentées. Chacun doit recevoir cette grâce, doit la demander, la solliciter, la recevoir, l'accueillir et glorifier Dieu pour cela. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es toujours le Dieu de l'éternité. Tu es toujours le même. Il n'y a pas chez toi l'ombre d'un changement. Nous te bénissons parce que tu vas agir en puissance pour ta gloire. Amen.